Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 74. Chevaux à la maison, bonne ou mauvaise idée? Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je ne suis pas particulièrement persuadée que tout le monde puisse être un bon propriétaire de cheval à la maison. Alors cette semaine, on se retrouve en solo pour un épisode d'un tout nouveau genre. Je me suis un peu challengée parce que j'avais envie de faire quelque chose d'hyper ludique pour résoudre cette question, pour savoir si pour toi c'est une bonne ou une mauvaise idée. La semaine dernière, je recevais Apolline d'Equi Connexion à mon micro. Ensemble, nous avons passé en revue son quotidien de propriétaire de chevaux à la maison. Elle nous y a partagé son retour d'expérience, mais aussi ses tips. Alors, avant d'embarquer pour le tout dernier épisode aux côtés de Claire-Marie d'Equus Paradise, qui est aussi la professionnelle que j'ai choisie pour délivrer la masterclass du 9 avril prochain sur la thématique de « Comment aménager ma prairie chez moi », je t'ai préparé un petit épisode spécial pour faire le point sur ta situation, sur tes connaissances et pour savoir si ton rêve peut devenir accessible rapidement ou pas. Alors j'ai commencé sec en intro puisque j'ai directement posé tout haut la question de est-ce que finalement c'est fait pour tout le monde d'être propriétaire de chevaux à la maison ou pas? C'est une question somme toute assez difficile à répondre, en tout cas pour moi qui suis derrière mon micro et qui ne te connais pas toi. Je peux par contre te donner 2-3 pistes de réflexion pour continuer de cheminer si jamais c'est un rêve que tu souhaiterais concrétiser. Dans mon échange avec Apolline, ce que je retiens, c'est que être propriétaire de chevaux à la maison, c'est devoir aménager son emploi du temps, devoir trouver des heures supplémentaires pour gérer tout l'aspect de l'environnement du quotidien autour de nos chevaux qui habituellement est pris en charge par le gérant de la pension. Et on peut pas juste troquer, on peut pas juste se dire « Ah, je passe 10 heures par semaine à aller voir mon cheval et du coup, dans ces 10 heures, j'arriverai à faire fonctionner un certain nombre de temps pour gérer les à côté. » Déjà parce que notre cheval peut avoir des besoins spécifiques et puis parce que l'aménagement en tant que tel de l'espace que tu vas avoir pour ce cheval ne va pas toujours pouvoir te permettre d'être dans l'ultra-efficacité. La deuxième des choses que j'ai retenues, c'est que tu as beau prendre énormément de temps en amont pour imaginer le projet parfait, il y aura toujours cette notion d'amélioration continue qui devra être le cœur même de ton projet. Parce que l'écosystème que tu vas créer, c'est du vivant dans tous les sens du terme. Le sol est vivant, les végétaux sont vivants, ton cheval est vivant, donc forcément, même si tu prévois le maximum, il y aura toujours une part d'inconnu et tu vas devoir apprendre à t'adapter. Donc si t'es quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle, pose-toi honnêtement la question de est-ce que tu es capable d'absorber la charge mentale que va te procurer la gestion même de cet environnement-là. Et puis le troisième point que je retiens, et qui n'est pas des moindres, c'est que quand on est propriétaire de chevaux à la maison, il n'y a pas de bouton stop. Alors, on peut toujours avoir des backups, quelqu'un qui peut venir nous filer un coup de main, une hors-siteuse ou, en tout cas, une personne de confiance qui, à certains moments, va pouvoir mettre la main à la pâte. Mais c'est encore plus difficile que quand on est en pension, de pouvoir vraiment s'octroyer la liberté de ne pas penser à son cheval, de pouvoir partir quand on veut, de pouvoir aménager son temps comme on veut autour de notre pratique équestre. J'ai pour habitude de dire que devenir propriétaire d'un cheval, c'est finalement embrasser un certain lifestyle. Et je pense que quand on devient propriétaire à la maison, on passe un cap, qui est difficilement imaginable. Maintenant que je viens de prendre 5 minutes pour remettre un peu le contexte suite à mon échange avec Apolline, rentrons dans le vif du sujet de cet épisode. Pour la première fois, je vais te proposer un quiz hyper facile. À chaque question, il te suffira de répondre soit oui, soit non. Tu vois, les règles sont méga simples. Et si je les fais sous cette forme, c'est que je sais que souvent tu m'écoutes quand tu es en voiture, pour aller à l'écurie ou pour aller au travail. Donc on n'est pas sur un QCM à réponse multiple. Chaque question, c'est soit oui ou non. Et rappelle-toi d'une des phrases que j'adore dire à qui veut l'entendre, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc si tu ne sais pas dire oui, c'est que c'est probablement non. Je t'invite cependant à prendre quand même un papier et un stylo et à peut-être noter les questions que je vais te poser à voix haute sur une feuille pour pouvoir te créer une sorte de trame pour aller chercher les informations qu'il te manque. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de test hyper ludique où je ne vais pas t'apporter, moi, les réponses. Je ne vais faire que poser les questions. Et à chaque fois, il te suffit de répondre par oui ou non. Plus tu as de oui, plus c'est une bonne idée pour toi de te lancer dans cette aventure parce que ça veut dire que tu as suffisamment de connaissances et balayé la question dans ta tête pour pouvoir être, entre guillemets, prêt à passer à l'acte. Plus tu auras de non, plus alors tu sauras exactement quelles sont les connaissances qu'il te manque et que tu dois aller chercher pour te sentir confortable vis-à-vis de ce nouveau projet. Je pourrais également te dire que si tu as moins de 6 oui, je te conseille vivement de rejoindre la masterclass de Claire Marie le 9 avril prochain parce que probablement qu'il te manque une vision un peu plus large de ce que c'est qu'être propriétaire à la maison, de savoir gérer un environnement, de créer un aménagement sur mesure qui ne va pas te surfatiguer toi, tout en tenant compte des besoins spécifiques de tes chevaux. Je vais commencer dans 2 minutes à te poser la première question. Je voulais juste te préciser que, bien sûr, que je ne vais pas poser les questions standards et classiques. Ici, c'est pas la peine de te demander si tu connais la surface minimum pour héberger un cheval. Si tu sais qu'il va falloir que tu penses à doubler ou tripler ton temps. Si tu as déjà une idée de qui va être ton prochain fournisseur de foin. Ou quel est le nombre de chevaux que tu t'apprêtes à héberger. Parce que c'est important que ton cheval ait une vie sociale et que donc il est indispensable qu'il soit au moins 2 sur le terrain. En fait, je pars du principe que si tu écoutes ce podcast depuis un petit bout de temps, ces questions-là, celles qui sont le plus évidentes, bien sûr que tu te les es déjà posées. On va donc avoir des questions qui sont finalement un petit peu plus, comment dire, c'est même pas technique, je dirais un petit peu plus pernicieuses, parce que c'est pas forcément celles auxquelles on pense à première vue. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as pris un papier ou un stylo? Ou si tu es au volant? Est-ce que tu m'écoutes tout en étant très concentré sur la route? Première question par laquelle tu dois répondre simplement oui ou non. Sais-tu reconnaître si une pâture est considérée comme riche ou pauvre? Une fois de plus, je ne vais pas donner la réponse de ce qu'est une pâture riche ou une pâture pauvre. Je t'invite juste à te poser la question et à te dire est-ce que je sais ou est-ce que je ne sais pas? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Tu pourras toi-même aller chercher les informations plus tard. Deuxième question. Connais-tu les quantités de fourrage qu'un cheval doit manger par jour? Que ce soit en matière sèche ou en matière fraîche? Là encore, il n'y a que 2 choix. Soit tu sais et tu réponds oui, et tu as peut-être un deuxième oui sur la liste des 10 questions. Soit tu ne sais pas et c'est non. Et c'est pas grave, tu pourras trouver la réponse plus tard, mais ça reste un non. Troisième question. Connais-tu le volume d'eau consommé par un cheval chaque jour? Je ne vais pas te donner le volume, je ne te demande pas de le citer à voix haute. Enfin, peut-être que tu es obligé de le faire pour savoir si tu es capable de répondre à la question. Mais est-ce que c'est un troisième oui ou est-ce que c'est un non? Quatrième question. Connais-tu la liste des plantes toxiques pour le cheval et sais-tu les repérer sur une parcelle? Alors là, j'abuse parce que c'est un peu une double question, j'avoue. Mais en gros, je pense que tu es quand même capable de répondre oui ou non. Ou on peut se fixer dans nos têtes d'être capable de citer les 10 plantes les plus courantes et qui sont toxiques pour le cheval, celles qu'on trouve a priori parfois dans nos pâtures ou à proximité de nos pâtures. Et quand je parle de plantes, on peut se dire vraiment que ce soit fleurs ou arbres, quoi, les végétaux au sens large. Alors on arrive à mi-parcours, je vais poser la cinquième question et tu pourras faire le point déjà pour voir si tu as plus de oui ou plus de non. Sais-tu quel volume de déjection un cheval génère par jour en moyenne? Là encore, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Et du coup, sur ces cinq premières questions, est-ce que tu as déjà plus de oui ou plus de non? Alors j'espère que ce petit quiz te plaît, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à poser mes questions sans donner les réponses. Je sais, je suis un peu sadique. Alors, sixième question. Sais-tu ce qu'est le phénomène d'érosion du sol? Est-ce que tu es capable de l'expliquer et du coup de nommer des solutions pour le limiter? Donc là, c'est pareil, c'est un peu une double question. Mais a priori, si tu sais ce que c'est le phénomène, tu es capable d'imaginer les solutions pour limiter l'érosion du sol. Donc, es-tu capable de le faire? Oui ou pas? Non. Septième question. Sais-tu quelles mesures mettre en place pour contrôler les parasites et les nuisibles dans ta future pâture? Là encore, c'est assez simple. Je ne te demande pas de citer les mesures, mais est-ce que tu as quelque chose qui te vient instinctivement à l'esprit? Et donc, oui, tu connais des mesures à mettre en place. Ou alors non, il n'y a absolument rien qui te traverse l'esprit. Je te recommande de mentalement faire les comptes si tu n'as pas de feuille de papier. C'est-à-dire de savoir à combien de oui tu es ou à combien de non tu es. Tu peux choisir l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la somme totale. Maintenant, intéressons-nous un peu plus à nos équidés, à nos compagnons. Et donc, pour la huitième question, je vais te demander si tu sais gérer l'anxiété de séparation, si jamais un des deux chevaux de ton pré ne sait pas rester seul. Ça, c'est une question super intéressante. Et là encore, la réponse est simple. Soit tu sais, tu connais un peu un protocole à mettre en place, ou en tout cas tu as une idée des apprentissages et des différents exercices qu'il va falloir mettre en place pour gérer cette situation, ou pas. Et donc, si tu ne sais pas, c'est non. Neuvième question, connais-tu les besoins spécifiques à ton cheval ou aux chevaux qui vont rejoindre ta pâture en fonction de leurs éventuelles pathologies ou de leurs éventuelles fragilités? Donc on parle souvent des besoins fondamentaux du cheval au sens large, mais on le sait, chaque équidé est aussi singulier. Chaque cheval, en fonction de son histoire et de son historique, ne va pas forcément avoir besoin des mêmes choses. Donc, est-ce que tu connais ces éventuelles pathologies ou des fragilités qui nécessiteraient une adaptation? Oui ou non? Et il est temps maintenant de passer à la dixième question. Avant de faire les comptes, sais-tu observer les signes d'une colique ou d'une urgence vitale chez un cheval? Et dans ce cas, connais-tu les premiers gestes à mettre en place? Bon, là encore, j'ai un peu triché, parce qu'il y a deux questions en une. Mais en fait, c'est assez simple. Est-ce que tu es capable de voir quand ton cheval t'envoie un signal et que ça va pas du tout? Et du coup, est-ce que tu sais réagir vite pour pouvoir, en tout cas, mettre toutes les chances de son côté et mettre toutes les chances de son côté à lui. Oui ou non? Ça y est, ça fait déjà 10 questions, ça passe vite. Donc, combien as-tu de oui et combien as-tu de non? J'ai envie de te poser une question bonus. Allez, comme ça on sera sur 11 questions, ce qui peut permettre de faire la différence et d'avoir un 6-5, par exemple, en termes de résultats. Dernière question, es-tu en possession de ton certificat d'engagement et de connaissance? Et connais-tu la liste des obligations réglementaires pour pouvoir avoir un cheval chez toi ou en tout cas héberger un cheval toi-même? Là encore, hyper simple. Soit tu sais, soit tu sais pas. Et du coup, est-ce que ça a fait basculer le nombre de oui que tu as ou le nombre de non que tu as? Comme je te disais, je ne vais pas prendre le temps de répondre à chacune de ces questions. Pour une fois, j'avais envie de faire vraiment quelque chose de simple et ludique. En quelques minutes. Si tu as beaucoup de oui, en tout cas plus de 6 oui, alors il y a un début de quelque chose. Ça veut dire que tu n'es peut-être pas complètement prêt, mais en tout cas, tu as déjà un niveau de connaissance qui font que tu peux préparer ton projet petit à petit en ayant les bons critères ou en tout cas les bons checks en tête quand tu vas travailler sur la dimension concrète de ton futur projet. Si tu es en dessous de 5 oui, de 6 oui, honnêtement, personnellement, je trouve ça un peu faible pour se lancer tête baissée dans avoir son cheval chez soi ou prendre un terrain en autogestion. Ça va faire beaucoup de connaissances à accumuler très très vite et ça veut dire qu'au moment même où tu vas concevoir un petit peu l'aménagement de ta future prairie, il va te manquer en fait certaines ressources pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Si c'est ton cas, je peux te proposer de rejoindre donc du coup la masterclass avec Claire-Marie le 9 avril prochain. On va justement parler de ces connaissances minimum, des critères qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce projet, des red flags à éviter, des étapes à ne pas brûler et concevoir petit à petit le plan d'action qui permet de réaliser son rêve de devenir propriétaire à la maison. Le lien pour avoir toutes les informations et pouvoir s'inscrire à la masterclass sont bien évidemment en description de cet épisode. Si tu ne sais pas qui est Claire-Marie, eh ben je te propose de nous rejoindre la semaine prochaine sur le podcast, de nouveau le mercredi à 6h30, puisque c'est elle que je reçois en interview pour parler des prérequis d'un bon environnement au choix d'une pâture. On va passer à peu près une heure ensemble, je l'ai cuisinée, de manière à ce que tu puisses la découvrir et commencer à comprendre sa vision et son approche holistique de l'environnement et l'aménagement d'une prairie pour nos chevaux. Et puis comme cet épisode c'est un nouveau format et que je me suis un peu lâchée à tester de nouvelles choses, j'adorerais avoir ton retour directement dans mes DM par exemple sur Instagram ou en commentaire par exemple dans ta plateforme d'écoute que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Voilà, j'aime bien toujours tester de nouvelles choses, donc avoir vos retours ça me permet de me dire ok je garde et je repropose une prochaine fois ou alors bon bof, peut mieux faire et puis du coup bah j'arrête ce format. Je te parlais de mes DM parce que justement c'est mon canal Instagram, en fait c'est mon canal de communication privilégié. Donc si jamais tu veux me faire tes retours, si tu as des questions à me poser et d'ailleurs potentiellement des questions aussi à me poser sur la masterclass, je me ferai un plaisir d'y répondre directement là-bas. Parfois il peut m'arriver de louper un message donc n'hésite pas à m'en renvoyer un, peut-être 48 heures après, pour être sûr que je ne t'oublie pas. Et puis si tu es un ou une fidèle auditrice du podcast et que tu as envie de faire la différence pour nous, ben n'hésite pas à laisser une notation, par exemple 5 étoiles, sur ta plateforme d'écoute ou alors de partager l'épisode qui t'a le plus marqué pour que d'autres personnes puissent à leur tour nous découvrir. Le Journal d'Iggy, c'est aussi donc une newsletter qui part une fois par mois. La prochaine sera envoyée mercredi prochain. Et donc, si tu n'es pas encore inscrit, sache que tu peux le faire sur iggyjournal.com. Pour le quotidien, une fois de plus, tout se passe sur Instagram ou TikTok, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci de ton écoute et à très bientôt.